À tous. Quelles seront les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État pour contrer la deuxième vague de l'épidémie de Covid? Des options ont été évoquées hier lors d'un conseil de défense sanitaire et déjà les maires des grandes villes les plus touchées sont inquiets. Vous entendrez le maire de Lyon au début de ce journal. Nous nous pencherons également sur la façon dont les conservatoires gèrent les mesures de restriction présentes et à venir. À l'étranger, Joe Biden et Donald Trump continuent leur campagne sur le thème notamment des seniors. Ce sera le reportage de Grégory Phillips. Enfin, l'OMC a sanctionné Washington hier pour ses aides à l'avionneur Boeing, un prêté pour un rendu, puisque c'est Bruxelles qui avait été lourdement condamné auparavant pour ses aides à Airbus. Les grandes villes seront sans doute dans le collimateur des annonces du président de la République ce soir. Emmanuel Macron doit s'exprimer en effet à partir de 20h sur TF1 et France 2 pour annoncer une nouvelle stratégie de lutte contre le Covid, l'actuel ne produisant apparemment pas les effets escomptés. Hier, un conseil de défense sanitaire a posé, selon l'entourage du président, toutes les options sur la table, y compris la possibilité d'un couvre-feu local, sans certitude à l'heure qu'il est. Quoi qu'il en soit, la mesure et de façon générale toute celle qui pourrait être annoncée ce soir inquiète les maires des grandes métropoles, à l'image du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet.
On a besoin quand même d'agir dans une certaine finesse, avec un certain sens des proportions. J'espère que ça va être la direction prise ce soir. C'était le sens aussi de mon interpellation sur la question des jauges. Accueillir 1000 personnes dans une salle où il n'y a que 1000 places et accueillir 1000 personnes dans un stade où il y en a 60 000, c'est pas la même chose. J'aimerais un peu plus d'écoute aussi, que les autorités gouvernementales soient davantage à l'écoute des contextes et qu'on puisse affiner la réponse. Je dis pas que je veux un traitement de faveur pour Lyon, c'est pas ma demande. Mais je veux qu'on puisse comprendre les situations de chacun des secteurs. Chaque situation a ses particularités. Et en plus de ça, on a besoin d'avoir une analyse de ce qui s'est fait. Parfois, on a un peu l'impression qu'on est dans un empilement de mesures sans savoir si vraiment la mesure d'avant a permis d'empêcher la propagation du virus. Offrons-nous un petit peu de recul, anticipons davantage. Moi, c'est ce que je souhaite. Là, à dire que le couvre-feu est la bonne réponse, j'attends d'en avoir la justification pour bien comprendre.
Le maire de Lyon, Grégory Doucet, interrogé par Mathilde Imberti. Depuis plusieurs jours, l'exécutif distille des messages alarmistes sur le regain de l'épidémie et sur la situation dans les hôpitaux, notamment à Paris. Les derniers chiffres montrent encore une augmentation globale du nombre de personnes en réanimation. 1633 pour une capacité actuelle nationale d'environ 5000 lits et 84 décès en 24 heures. Mais le président sera également attendu sur le terrain économique de la gestion de la crise. Hier, les professionnels de l'hôtellerie-restauration indépendante se sont alarmés d'un possible couvre-feu, eux aussi, qui selon eux condamnerait à la faillite des milliers d'établissements. Et puis de nombreux rapports pointent une augmentation sévère de la pauvreté. En attendant, le fonctionnement des établissements qui accueillent du public et notamment des enfants et des adolescents tente de s'adapter depuis la rentrée. C'est le cas des conservatoires. La mise en place des cours en respectant les gestes barrières a été un casse-tête cet été et l'annonce de nouvelles mesures promet une suite de saisons encore plus compliquée. Le reportage de Laurent Borde.
Pour les conservatoires, la rentrée 2020 a été particulière à cause du coronavirus. Tout a dû être repensé, renouvelé, réactualisé afin de respecter les règles sanitaires obligatoires. Des règles difficiles pour tous les conservatoires, quelle que soit leur taille, comme l'explique Jean-Luc Touret, directeur du conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt.
Il a fallu à la fois rassurer, mais aussi pouvoir donner un axe fort à toutes et à tous. Donc on avait bien évidemment anticipé, parce que nous sommes dans un bâtiment qui est quand même assez grand. Il a fallu réfléchir à un plan de circulation, bien évidemment à tout ce qui est gestes barrières, acquisition de matériel, etc. Mais effectivement, dès l'accès au bâtiment, plus les circulations, plus l'accès aux étages, ça a été vraiment quelque chose qui a dû être vu et revu pour maintenir au maximum la sécurité de tout le monde.
Pour Sophie Berthomé, la directrice du conservatoire à rayonnement intercommunal du Creusot, la rentrée s'est également avérée compliquée.
On suit le protocole qu'avait recommandé le ministère de la Culture, c'est-à-dire qu'on a des cloisons en plexiglas. Donc on fait très attention, on porte le masque si c'est nécessaire, autrement chacun de son côté par rapport à la cloison. Et puis on a tout le matériel qu'il faut pour désinfecter les instruments s'il y a besoin de toucher les instruments pour les plus jeunes. Donc c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus long à mettre en place les cours. Il faut faire très attention, mais autrement bon, ça se fait.
Tous les conservatoires sont prêts en cas de nouvelles restrictions sanitaires pour continuer leurs cours dans les meilleures conditions possibles. Un challenge difficile, mais pas infaisable.
Le vaccin anti-Covid, s'il arrive un jour, sera accessible aux pays en développement. Pardon, c'est en tout cas ce qu'a promis hier la Banque mondiale, qui a annoncé qu'elle débloquerait un plan d'aide de 12 milliards de dollars. En ce sens, cette enveloppe servira à financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour les citoyens de ces pays, soit la possibilité de vacciner jusqu'à 1 milliard de personnes. Et puis, ce mercredi, les ministres des Finances et chefs des banques centrales du G20 se réunissent pour discuter de la relance de l'économie après la crise, des discussions virtuelles présidées par l'Arabie Saoudite, alors qu'hier, le FMI annonçait une récession de 4,4% de l'économie mondiale pour 2020, en prévoyant que les répercussions de la crise dans le monde allaient durer plusieurs années. Il reste 21 jours avant l'élection présidentielle américaine et la campagne s'accélère. 10 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté par correspondance, signe que la participation est au rendez-vous. Pour l'instant, c'est Joe Biden qui distance assez nettement l'actuel président dans les sondages. Hier, les deux candidats ont tous les deux tenté de séduire l'électorat senior, des électeurs clés dans plusieurs États, dont la Floride, où le démocrate Joe Biden, senior lui-même, tenait un meeting. Le récit du correspondant de France Culture aux États-Unis, Grégory Phillips.
La toute dernière publicité télévisée de Joe Biden met en scène Mike, un retraité de la métallurgie, qui dit qu'il a travaillé 47 ans et que Donald Trump veut lui supprimer sa sécurité sociale, tandis que Joe Biden défendra son niveau de vie. Le candidat démocrate était d'ailleurs en Floride hier après-midi pour parler aux seniors, traditionnellement plutôt conservateurs. Mais cette année, petite révolution dans les sondages, Biden est très largement en tête chez les plus de 65 ans, entre 20 et 27 points d'avance sur Trump dans cette catégorie de la population. Jamais un candidat démocrate n'a été aussi populaire auprès de cette tranche d'âge depuis sans doute Bill Clinton en 1996. Ce que reprochent les seniors au président sortant, c'est avant tout sa gestion de la pandémie et ses propos récents. Ne vous laissez pas dominer par le virus. Alors le candidat républicain tente de rectifier le tir. Les seniors, vous êtes mes préférés, dit-il dans cette vidéo. D'ailleurs, j'en suis un aussi. Mais cela suffira-t-il à convaincre les plus de 65 ans qui représentent 25% de l'électorat et encore plus dans des États clés comme la Floride où ils sont surreprésentés? Ces dernières semaines, on a vu là-bas des manifestations pro-Trump puis pro-Biden en voiturette de golf pour soutenir ces deux candidats seniors. Donald Trump, 74 ans, et Joe Biden, bientôt 78.
Grégory Phillips. C'est un dossier qui empoisonne depuis des années les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe, les aides gouvernementales aux géants de l'aviation, Airbus pour l'Europe, Boeing pour les États-Unis. Un dossier traité depuis plus de 15 ans par l'Organisation mondiale du commerce, qui a déjà lourdement condamné Bruxelles l'année dernière sur ce sujet, les États européens étant accusés de fausser la concurrence. Mais les États-Unis ne sont pas en reste, et hier, le même OMC a sanctionné Washington, ouvrant la voie à des mesures de rétorsion commerciale qui se comptent en milliards de dollars. Cette énième condamnation, toutefois, pourrait être la dernière. Les explications de Marie-Pierre Véraud.
Le match semblait sans fin depuis que le président Bush avait déterré la hache de guerre en 2004. Boeing dénonce alors les aides illégales que les gouvernements européens verseraient à leur avionneur Airbus. Bruxelles ne tarde pas à contre-attaquer contre les crédits dont bénéficierait indûment Boeing. Jugements et appels se succèdent et dans cette bataille technico-juridique, outre Airbus, des victimes collatérales venues d'Europe, vin, fromage ou encore huile d'olive. L'an dernier, l'OMC a en effet autorisé Washington à imposer des taxes sur près de 7,5 milliards de dollars de produits européens. Hier, Bruxelles a donc obtenu à son tour le feu vert du gendarme du commerce pour riposter à ces surtaxes, et ce pour près de 4 milliards de dollars. C'est moins, mais la somme reste conséquente. Et outre Boeing, les Européens pourraient sanctionner la patate douce, le jus d'orange congelé ou encore le saumon du Pacifique américain. Mais tout en peaufinant sa liste de produits, la Commission répète que personne n'a gagné à de douloureuses mesures et contre-mesures et laisse entendre que si Washington retire ses mesures, l'Europe pourrait s'abstenir d'imposer les siennes. Épuisée par leur guérilla, dans un contexte de souffrance du secteur aérien et de crise économique avivée par la pandémie, les deux parties semblent de nouveau prêtes à négocier, mais le marchandage ne fait que commencer.
Marie-Pierre Véraud, le temps de ce mercredi pour finir, il sera frais et couvert, voire pluvieux et orageux dans le sud-ouest. Sur les Pyrénées, la neige tombera au-dessus de 1200 mètres du massif central aux Alpes, temps maussade avec quelques averses et de la neige également. Dans le sud-est, temps pluvieux en matinée, puis le ciel hésitera entre nuages et soleil. Les températures, les minimales seront comprises ce matin entre 0 et 13 degrés dans le sud-est et les maximales en baisse avec pas plus de 11 à 14 degrés sur le pays cet après-midi, 17 à 20 dans le sud-est.